Stendhal, Vie de Mozart. Chapitre 1er, de son enfance. Le père de Mozart a eu la plus grande influence sur la singulière destinée de son fils, dont il a développé et peut-être modifié les dispositions. Il est donc nécessaire que nous en disions d'abord quelques mots. Léopold Mozart, père, était fils d'un relieur d'Augsbourg. Il étudia à Salzbourg et, en 1743, il fut admis parmi les musiciens du prince-archevêque de Salzbourg. Il devint en 1762 sous-directeur de la chapelle du prince. Les devoirs de son emploi n'absorbant pas tout son temps, il donnait en ville des leçons de composition musicale et de violon. Il publia même un ouvrage, intitulé « Versuch eine gründlichen Violinschule » ou « Essai sur l'enseignement raisonné du violon », qui eut beaucoup de succès. Il avait épousé Anne-Marie Pertl, et l'on a remarqué, comme une circonstance digne de l'attention d'un observateur exact, que ces deux époux qui ont donné le jour à un artiste si heureusement organisé pour l'harmonie musicale étaient cités dans Salzbourg à cause de leur rare beauté. De 7 enfants nés de ce mariage, 2 seuls ont vécu, une fille, Marie-Anne, et un fils, celui dont nous allons parler. Jean Chrysostome Wolfgang Théophile Mozart naquit à Salzbourg le 27 janvier 1756. Peu d'années après, Mozart père cessa de donner des leçons en ville et se proposa de consacrer tout le temps que ses devoirs chez le prince lui laisseraient à soigner lui-même l'éducation musicale de ses 2 enfants. La fille, un peu plus âgée que Wolfgang, profita très bien de ses leçons, et dans les voyages qu'elle fit dans la suite avec sa famille, elle partageait l'admiration qu'inspirait le talent de son frère. Elle finit par se marier à un conseiller du prince-archevêque de Salzbourg, préférant le bonheur domestique à la renommée d'un grand talent. Le jeune Mozart avait à peu près 3 ans lorsque son père commença à donner des leçons de clavecin à sa sœur, qui alors en avait 7. Mozart manifesta aussitôt ses étonnantes dispositions pour la musique. Son bonheur était de chercher des tierces sur le piano, et rien n'égalait sa joie lorsqu'il avait trouvé cet accord harmonieux. Je vais entrer dans des détails minutieux qui, je suppose, pourront intéresser le lecteur. Lorsqu'il eut 4 ans, son père commença à lui apprendre, presque en jouant, quelques menuets et d'autres morceaux de musique. Cette occupation était aussi agréable au maître qu'à l'élève. Pour apprendre un menuet, il fallait une demi-heure à Mozart, et à peine le double pour un morceau de plus grande étendue. Aussitôt après, il les jouait avec la plus grande netteté et parfaitement en mesure. En moins d'une année, il fit des progrès si rapides qu'à 5 ans, il inventait déjà de petits morceaux de musique qu'il jouait à son père et que ce dernier, pour encourager le talent naissant de son fils, avait la complaisance d'écrire. Avant l'époque où le petit Mozart prit du goût pour la musique, il aimait tellement tous les jeux de son âge qui pouvaient un peu intéresser son esprit qu'il leur sacrifiait jusqu'à ses repas. Dans toutes les occupations, il montrait un cœur sensible et une âme aimante. Il lui arrivait souvent de dire jusqu'à 10 fois dans la journée aux personnes qui s'occupaient de lui « M'aimez-vous bien ?» Et lorsqu'en badinant elle lui disait que non, on voyait aussitôt des larmes rouler dans ses yeux. Du moment où il connut la musique, son goût pour les jeux et les amusements de son âge s'évanouit, ou, pour que ses amusements lui plussent, il fallait y mêler de la musique. Un ami de ses parents s'amusait souvent à jouer avec lui. Quelquefois, il portait des joujoux en procession d'une chambre dans une autre. Alors, celui qui n'avait rien apporté chantait une marche ou la jouait sur le violon. Durant quelques mois, le goût des études ordinaires de l'enfance prit un tel ascendant sur Wolfgang qu'il lui sacrifia tout et jusqu'à la musique. Pendant qu'il apprit à calculer, on voyait toujours les tables, les chaises, les murs et même le plancher couvert de chiffres qu'il y traçait avec de la craie. La vivacité de son esprit le portait à s'attacher facilement à tous les objets nouveaux qu'on lui présentait. La musique, cependant, redevint l'objet favori de ses études. Il y fit des progrès si rapides que son père, quoiqu'il fût toujours avec lui et à portée d'en observer la marche, les regarda plus d'une fois comme un prodige. « L'anecdote suivante, racontée par un témoin oculaire, prouvera ce qui vient d'être dit. Mozart le père revenait un jour de l'église avec un de ses amis. Il trouva son fils occupé à écrire. « Que fais-tu donc là, mon ami ?» lui demanda-t-il. « Je compose un concerto pour le clavecin. Je suis presque au bout de la première partie. » Voyons ce beau griffonnage. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Le père prit cependant le papier et montra à son ami un griffonnage de notes qu'on pouvait à peine déchiffrer à cause des taches d'encre. Les deux amis rirent d'abord de bon cœur de ce barbouillage, mais bientôt, lorsque Mozart le père lui regardait avec attention, ses yeux restèrent longtemps fixés sur le papier et enfin se remplirent de larmes d'admiration et de joie. « Voyez donc, mon ami, dit-il avec émotion et en souriant, comme tout est composé d'après les règles. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire usage de ce morceau, parce qu'il est trop difficile et que personne ne pourrait le jouer. Aussi, c'est un concerto, reprit le jeune Mozart. Il faut l'étudier jusqu'à ce qu'on parvienne à le jouer comme il faut. Tenez, voilà comment on doit s'y prendre. » Aussitôt, il commença à jouer, mais il ne réussit qu'autant qu'il fallait pour faire voir quelles avaient été ses idées. À cette époque, le jeune Mozart croyait fermement que jouer un concerto et faire un miracle étaient la même chose. Aussi la composition dont on vient de parler était-elle un amas de notes posées avec justesse, mais qui présentait tant de difficultés que le plus habile musicien eût trouvé impossible de les jouer. Le jeune Mozart étonnait tellement son père qu'il conçut l'idée de voyager et de faire partager son admiration pour son fils aux cours étrangères et à celles de l'Allemagne. Une telle idée n'a rien d'extraordinaire en ce pays. Ainsi, dès que Wolfgang eut atteint sa sixième année, la famille Mozart, composée du père, de la mère, de la fille et de Wolfgang, fit un voyage à Munich. L'électeur entendit les deux enfants qui reçurent des éloges infinis. Cette première course réussit de tout point. Les jeunes virtuoses, de retour à Salzbourg et charmés de l'accueil qu'ils avaient reçu, redoublèrent d'application et parvinrent à un tel degré de force sur le piano qu'ils n'avaient plus besoin de leur jeunesse pour être extrêmement remarquables. Pendant l'automne de l'année 1762, toute la famille se rendit à Vienne et les enfants firent de la musique à la cour. L'empereur François Ier dit alors par plaisanterie au petit Wolfgang « Il n'est pas très difficile de jouer avec tous les doigts, mais ne jouer qu'avec un seul doigt et sur un clavecin caché, voilà ce qui mériterait l'admiration. » Sans montrer la moindre surprise à cette étrange proposition, l'enfant se mit sur le champ à jouer d'un seul doigt et avec toute la netteté et la précision possible. Il demanda qu'on mît un voile sur les touches du clavecin, et continua de même, et comme si depuis longtemps il se fût exercé à cette manière. Dès l'âge le plus tendre, Mozart, animé du véritable amour-propre de son art, ne s'enorgueillissait nullement des éloges qu'il recevait des grands personnages. Il n'exécutait que des bagatelles insignifiantes lorsqu'il avait affaire à des gens qui ne se connaissaient pas en musique. Il jouait au contraire avec tout le feu et toute l'attention dont il était susceptible dès qu'il était en présence de connaisseurs, et souvent son père fut obligé d'user de subterfuges et de faire passer pour connaisseurs en musique les grands seigneurs devant lesquels il devait paraître. Lorsque, âgé de 6 ans, le jeune Mozart se mit au clavecin pour jouer en présence de l'empereur François, il s'adressa au prince et lui dit « Monsieur Wagenseil n'est-il pas ici? C'est lui qu'il faut faire venir, il s'y connaît. » L'empereur fit appeler Wagenseil et lui céda sa place auprès du clavecin. « Monsieur, dit alors Mozart au compositeur, je joue un de vos concertos, il faut que vous me tourniez les feuilles. » Jusqu'alors Wolfgang n'avait joué que du clavecin et l'habileté extraordinaire qu'il montrait sur cet instrument semblait éloignée jusqu'à l'idée de vouloir qu'il s'appliquât aussi à quelque autre. Mais le génie qui l'animait devança de beaucoup tout ce qu'on aurait osé désirer. Il n'eut pas même besoin de leçons. En revenant de Vienne à Salzbourg avec ses parents, il rapporta un petit violon dont on lui avait fait présent pendant son séjour dans la capitale. Il s'amusait avec cet instrument. Peu de temps après ce retour, Wenzel, habile violon, et qui commençait alors à composer, vint trouver Mozart le père pour lui demander ses observations sur 6 trios qu'il avait faits pendant le voyage de celui-ci à Vienne. Schartner, trompette de la musique de l'archevêque, l'une des personnes auxquelles le jeune Mozart était le plus attaché, se trouvait en ce moment chez son père, et c'est lui-même que nous laisserons parler. « Le père, dit Schartner, jouait de la basse. Wenzel le premier violon, et moi, je devais jouer le second violon. Le jeune Mozart demanda la permission de faire cette dernière partie. Mais le père le gronda de cette demande enfantine, lui disant que, puisqu'il n'avait pas reçu de leçons régulières de violon, il ne devait pas être en état de bien jouer. Le fils répliqua que, pour jouer le second violon, il ne lui semblait pas indispensable d'avoir reçu des leçons. Le père, à moitié fâché de cette réponse, lui dit de s'en aller et de ne plus nous interrompre. Wolfgang en fut tellement affecté qu'il commença à pleurer à chaudes larmes. Comme il s'en allait avec son petit violon, je priai qu'on lui accordât la permission de jouer avec moi. Le père y consentit après bien des difficultés. « Eh bien, dit-il à Wolfgang, tu pourras jouer avec M. Schartner, mais sous la condition que ce sera tout doucement et qu'on ne t'entendra pas. Sans cela, je te ferai sortir sur le champ. » Nous commençons le trio, et le petit Mozart joue avec moi. Je ne fus pas longtemps à m'apercevoir avec le plus grand étonnement que j'étais tout à fait inutile. Sans dire un mot, je mis mon violon de côté, regardant le père, à qui cette scène faisait verser des larmes de tendresse. L'enfant joua de même les six trios. Les éloges que nous lui prodigâmes alors le rendirent assez hardi pour prétendre qu'il jouerait aussi bien le premier violon. Par plaisanterie, nous en fîmes l'essai, et nous ne pouvions pas nous empêcher de rire en l'entendant faire cette partie, d'une manière tout à fait irrégulière, il est vrai, mais du moins de façon à ne jamais rester court. Chaque jour amenait de nouvelles preuves de l'excellente organisation de Mozart pour la musique. Il savait distinguer et indiquer les plus légères différences entre les sons, et tout son faux, ou seulement rude et non adouci par quelque accord, était pour lui une torture. C'est ainsi que durant sa première enfance, et même jusqu'à l'âge de 10 ans, il eut une horreur invincible de la trompette, lorsqu'elle ne servait pas uniquement pour accompagner un morceau de musique. Quand on lui montrait cet instrument, il faisait sur lui à peu près l'impression que produit sur d'autres enfants un pistolet chargé qu'on tourne contre eux par plaisanterie. Son père crut pouvoir le guérir de cette frayeur en faisant sonner de la trompette en sa présence, malgré les prières du jeune Mozart pour qu'on lui épargnât ce tourment. Mais au premier son, il pâlit, tomba sur le plancher, et vraisemblablement il aurait eu des convulsions si on avait cessé de jouer sur le champ. Depuis qu'il avait fait ses preuves sur le violon, il se servait quelquefois de celui de Schartner, cet ami de la famille Mozart dont il vient d'être question. Il en faisait un grand éloge parce qu'il en tirait des sons extrêmement doux. Schartner arriva un jour chez le jeune Mozart pendant qu'il s'amusait à jouer de son propre violon. « Que fait votre violon ?» fut la première demande de l'enfant, et puis il continua de jouer des fantaisies. Enfin, après avoir réfléchi quelques instants, il dit à Schartner « Ne pourriez-vous pas laisser votre violon accorder comme il l'était la dernière fois que je m'en suis servi? Il est à un demi-quart de ton au-dessous de celui que je tiens. » On rit d'abord de cette exactitude scrupuleuse, mais Mozart père, qui déjà plusieurs fois avait eu l'occasion d'observer la singulière mémoire que son fils avait pour retenir les tons, fit apporter le violon, et au grand étonnement de tous les assistants, il était à un demi-quart de ton au-dessous de celui que Wolfgang tenait. Quoique l'enfant vit tous les jours de nouvelles preuves de l'étonnement et de l'admiration que ses talents inspiraient, il ne devint ni opiniâtre ni orgueilleux. Homme pour le talent, il a toujours été, dans tout le reste, l'enfant le plus complaisant et le plus docile. Jamais il ne s'est montré mécontent de ce que lui ordonnait son père. Lors même qu'il s'était fait entendre une journée entière, il continuait de jouer sans la moindre humeur dès que son père le désirait. Il comprenait et exécutait les moindres signes que lui faisaient ses parents. Il poussait même l'obéissance jusqu'au point de refuser des bonbons lorsqu'il n'avait pas la permission de les accepter. Au mois de juillet 1763, par conséquent lorsqu'il avait 7 ans, sa famille entreprit son premier voyage hors de l'Allemagne, et c'est de cette époque que date en Europe la célébrité du nom de Mozart. La tournée commença par Munich, où le jeune virtuose joua un concerto de violon en présence de l'électeur, après avoir préludé de fantaisies. À Augsbourg, à Mannheim, à Francfort, à Koblenz, à Bruxelles, les deux enfants donnèrent des concerts publics ou jouèrent devant les princes du pays, et partout, ils reçurent les plus grands éloges. Au mois de novembre, ils arrivèrent à Paris, où ils restèrent 5 mois. Ils se firent entendre à Versailles, et Wolfgang toucha l'orgue en présence de la cour, dans la chapelle du roi. À Paris, ils donnèrent deux grands concerts publics et reçurent de tout le monde l'accueil le plus distingué. Ils y eurent même l'honneur du portrait. On grava le père au milieu de ses deux enfants, d'après un dessin de Carmontel. Ce fut à Paris que le jeune Mozart composa et publia ses deux premières œuvres. Il dédia la première à Madame Victoire, seconde fille de Louis XV, et l'autre à Madame la Comtesse de Tessé. En avril 1764, les Mozart passèrent en Angleterre, où ils demeurèrent jusque vers le milieu de l'année suivante. Les enfants jouèrent devant le roi, et comme à Versailles, le fils toucha l'orgue de la chapelle royale. On fit plus de cas à Londres de son jeu sur l'orgue que sur le clavecin. Il y donna avec sa sœur un grand concert, dont toutes les symphonies étaient de sa composition. On pense bien que les deux enfants, et surtout Wolfgang, ne s'arrêtèrent pas au degré de perfection qui leur procurait tous les jours des applaudissements si flatteurs. Malgré leurs déplacements continuels, ils travaillaient avec une régularité extrême. Ce fut à Londres qu'ils commencèrent à jouer des concertos sur deux clavecins. Wolfgang commença aussi à chanter de grands airs, ce dont il s'acquittait avec beaucoup de sentiments. À Paris et à Londres, les incrédules lui avaient présenté différents morceaux difficiles de Bach, de Handel et d'autres maîtres. Il les jouait sur le champ, à la première vue, et avec toute la justesse possible. Un jour, chez le roi d'Angleterre, d'après une basse seulement, il exécuta un morceau plein de mélodie. Une autre fois, Christian Bach, le maître de musique de la reine, prit le petit Mozart entre ses genoux et joua quelques mesures. Mozart continua ensuite et ils jouèrent ainsi alternativement une sonate entière avec tant de précision que tous ceux qui ne pouvaient les voir crurent que la sonate avait été jouée par la même personne. Pendant son séjour en Angleterre et par conséquent à l'âge de 8 ans, Wolfgang composa 6 sonates qu'il fit graver à Londres et qu'il dédia à la reine. Au mois de juillet 1765, la famille Mozart repassa à Calais. De là, elle continua son voyage par la Flandre, où le jeune virtuose toucha souvent l'orgue dans les églises des monastères et dans les cathédrales. À La Haye, les deux enfants firent l'un après l'autre une maladie qui donna à craindre pour leurs jours. Ils furent 4 mois à se rétablir. Wolfgang, pendant sa convalescence, fit 6 sonates pour le piano, qu'il dédia à la princesse de Nassau-Weilbourg. Au commencement de l'année 1766, ils passèrent 1 mois à Amsterdam, d'où ils se rendirent à La Haye pour assister à la fête de l'installation du prince d'Orange. Le fils composa pour cette solennité un quolibet pour tous les instruments, ainsi que différentes variations et quelques airs pour la princesse. Après avoir joué plusieurs fois en présence du Statuaire, ils revinrent à Paris, où ils passèrent 2 mois. Enfin, ils rentrèrent en Allemagne par Lyon et la Suisse. À Munich, l'électeur proposa au jeune Mozart un thème musical et lui demanda de le développer et de l'écrire sur le champ. C'est ce qu'il fit en présence du prince et sans se servir de clavecin ni de violon. Après avoir fini de l'écrire, il le joua, ce qui excita au plus haut degré l'étonnement de l'électeur et de toute sa cour. Après une absence de plus de 3 ans, ils revinrent à Salzbourg vers la fin de novembre 1766. Ils y restèrent jusqu'à l'automne de l'année suivante, et Wolfgang, plus tranquille, sembla doubler son talent. En 1768, les enfants jouèrent à Vienne, en présence de l'empereur Joseph II, qui chargea le jeune Mozart de composer la musique d'un opéra bouffe. C'était la Finta Simplice. Elle fut approuvée par le maître de chapelle Hasse et par Métastase. Mais elle ne fut pas exécutée sur le théâtre. Plusieurs fois, chez les maîtres de chapelle Bonneau et Hasse, chez Métastase, chez le duc de Bragance, chez le prince de Kaunitz, le père fit donner à son fils le premier air italien qu'on trouvait sous la main, et celui-ci composait les parties de tous les instruments en présence de l'assemblée. Lors de l'inauguration de l'église des Orphelins, il fit la musique de la messe, celle du motet et un duo de trompettes. Et quoiqu'il n'eût alors que 12 ans, il dirigea cette musique solennelle en présence de la cour impériale. Il revint passer l'année 1769 à Salzbourg. Au mois de décembre, son père le mena en Italie. Wolfgang venait d'être nommé maître de concert de l'archevêque de Salzbourg. On s'imagine facilement l'accueil que reçut en Italie cet enfant célèbre, qui avait excité tant d'admiration dans les autres parties de l'Europe. Le théâtre de sa gloire, à Milan, fut la maison du comte Firmian, gouverneur général. Après avoir reçu le poème de l'opéra qu'on devait représenter pendant le carnaval de l'année 1771 et dont il se chargea de faire la musique, Wolfgang quitta Milan au mois de mars 1770. À Bologne, il trouva un admirateur animé du plus vif enthousiasme dans la personne du fameux père Martini, le même auquel Jomelli était venu demander des leçons. Le père Martini et les amateurs de Bologne furent transportés de voir un enfant de 13 ans, très petit pour son âge et qui ne paraissait pas en avoir 10, développer tous les thèmes de fugue proposés par Martini et les exécuter sur le piano sans hésiter et avec toute la précision possible. À Florence, il excita le même étonnement par la précision avec laquelle il joua, à la première vue, les fugues et les thèmes les plus difficiles que lui proposa le marquis de Ligneville, célèbre amateur. Nous avons sur son séjour à Florence une anecdote étrangère à la musique. Il fit dans cette ville la connaissance d'un jeune Anglais nommé Thomas Linley, qui avait environ 14 ans, c'est-à-dire à peu près son âge. Linley était élève de Martini, célèbre violon, et jouait de cet instrument avec une grâce et une habileté admirables. L'amitié de ces deux enfants devint une passion. Le jour de leur séparation, Linley donna à Mozart des vers qu'il avait demandés sur ce sujet à la célèbre Corilla. Il accompagna la voiture de Wolfgang jusqu'à la ville, et les deux enfants prirent congé l'un de l'autre en versant des torrents de larmes. Mozart et son fils se rendirent à Rome pour la Semaine Sainte. On pense bien qu'ils ne manquèrent pas d'aller le soir du Mercredi Saint à la chapelle Sixtine entendre le célèbre Miserere. Comme on disait alors qu'il était défendu aux musiciens du pape sous peine d'excommunication d'en donner des copies, Wolfgang se proposa de le retenir par cœur. Il l'écrivit en effet en rentrant à l'auberge. Ce Miserere étant répété le Vendredi Saint, il y assista encore, en tenant le manuscrit dans son chapeau, et y put faire ainsi quelques corrections. Cette anecdote fit sensation dans la ville. Les Romains, doutant un peu de la chose, engagèrent l'enfant à chanter ce Miserere dans un concert. Il s'en acquitta à ravir. Le castrat Cristofori, qui l'avait entendu à la chapelle Sixtine et qui était présent, rendit par son étonnement le triomphe de Mozart complet. La difficulté de ce que faisait Mozart est bien plus grande encore qu'on ne se l'imaginerait d'abord. Mais je supplie qu'on me permette quelques détails sur la chapelle Sixtine et sur le Miserere. Il y a ordinairement dans cette chapelle au moins 32 voix, et ni orgue ni aucun instrument pour les accompagner ou les soutenir. Cet établissement atteignit le plus haut point de perfection auquel il soit parvenu vers le commencement du XVIIIe siècle. Depuis, les salaires des chantres étant restés nominativement les mêmes à la chapelle du pape, et par conséquent ayant beaucoup diminué, tandis que l'opéra prenait faveur et qu'on offrait aux habiles chanteurs des prix inconnus jusqu'alors, peu à peu la chapelle Sixtine n'a plus eu les premiers talents. Le Miserere qu'on y chante deux fois pendant la Semaine Sainte et qui fait un tel effet sur les étrangers, a été composé il y a 200 ans environ par Gregorio Allegri, un des descendants d'Antonio Allegri, si connu sous le nom du Corrège. Au moment où il commence, le pape et les cardinaux se prosternent. La lumière des cierges éclaire le jugement dernier que Michel-Ange peignit contre le mur auquel l'autel est adossé. À mesure que le Miserere avance, on éteint successivement les cierges. Les figures de tant de malheureux peintes avec une énergie si terrible par Michel-Ange n'en deviennent que plus imposantes, à demi éclairées par la pâle lueur des derniers cierges qui restent allumés. Lorsque le Miserere est sur le point de finir, le maître de chapelle, qui bat la mesure, la ralentit insensiblement, les chanteurs diminuent le volume de leur voix, l'harmonie s'éteint peu à peu, et le pécheur, confondu devant la majesté de son Dieu et prosterné devant son trône, semble attendre en silence la voix qui va le juger.
Thank you.
L'effet sublime de ce morceau tient, ce me semble, et à la manière dont il est chanté, et au lieu où on l'exécute. La tradition a appris aux chanteurs du pape certaines manières de porter la voix qui sont du plus grand effet, et qu'il est impossible d'exprimer par des notes. Leur chant remplit au plus haut point la condition qui rend la musique touchante. On répète la même mélodie sur tous les versets du psaume. Mais cette musique, semblable par les masses, n'est point exactement la même dans les détails. Ainsi, elle est facilement comprise et cependant évite ce qui pourrait ennuyer. L'usage de la chapelle Sixtine est d'accélérer ou de ralentir la mesure sur certains mots, de renfler ou de diminuer les sons suivant le sens des paroles, et de chanter quelques versets entiers plus vivement que d'autres. Voici maintenant ce qui montre la difficulté du tour de force exécuté par Mozart en chantant le Miserere. On raconte que l'empereur Léopold Ier, qui non seulement aimait la musique mais encore était bon compositeur lui-même, fit demander au pape, par son ambassadeur, une copie du Miserere d'Allegri pour l'usage de la chapelle impériale de Vienne, ce qui fut accordé. Le maître de la chapelle Sixtine fit faire cette copie et l'on se hâta de l'envoyer à l'empereur, qui avait alors à son service les premiers chanteurs de ce temps-là. Malgré leur talent, le Miserere d'Allegri n'ayant fait à la cour de Vienne d'autre effet que celui d'un faux bourdon assez plat, l'empereur et toute sa cour pensèrent que le maître de chapelle du pape, jaloux de garder le Miserere, avait éludé l'ordre de son maître et envoyé une composition vulgaire. L'empereur expédia sur-le-champ un courrier au pape pour se plaindre de ce manque de respect, et le maître de chapelle fut renvoyé sans que le pape indigné voulût même écouter sa justification. Ce pauvre homme obtint pourtant d'un des cardinaux qu'il plaiderait sa cause et ferait entendre au pape que la manière d'exécuter ce Miserere ne pouvait s'exprimer par des notes, ni s'apprendre qu'avec beaucoup de temps et par des leçons répétées des chantres de la chapelle qui possédaient la tradition. Sa sainteté, qui ne se connaissait pas en musique, put à peine comprendre comment les mêmes notes n'avaient pas à Vienne la même valeur qu'à Rome. Cependant, elle ordonna au pauvre maître de chapelle d'écrire sa défense pour être envoyé à l'empereur, et avec le temps, il rentra en grâce. C'est cette anecdote très connue qui frappa les Romains quand ils virent un enfant chanter parfaitement leur Miserere après deux leçons. Et rien n'est plus difficile en fait de beaux-arts que d'exciter l'étonnement dans Rome. Toutes les réputations se font petites en entrant dans cette ville célèbre où l'on a l'habitude des plus belles choses en tout genre. Je ne sais si c'est à cause du succès qu'il lui procura, mais il paraît que le chant solennel et mélancolique du Miserere fit une impression profonde sur l'âme de Mozart, qui depuis eut une prédilection marquée pour Handel et le tendre Boccherini. Chapitre 2. Suite de l'enfance de Mozart. De Rome, les Mozart allèrent à Naples, où Wolfgang joua du piano au Conservatorio alla Pietà. Comme il était au milieu de sa sonate, les auditeurs s'avisèrent de croire qu'il avait un charme dans son anneau. Il fallut comprendre ce que signifiait leur cri, et enfin ôter cet anneau prétendu magique. On conçoit l'effet sur de tels gens lorsqu'ils virent que, la bague ôtée, la musique n'en était pas moins belle. Wolfgang donna un second grand concert chez le comte de Kaunitz, ambassadeur de l'empereur, et retourna ensuite à Rome. Le pape désira le voir et lui conféra à cette occasion la croix et le brevet de chevalier de la milice dorée, Auratea Militiae Eques. À Bologne, il fut nommé à l'unanimité membre et maître de l'Académie philharmonique. On l'avait enfermé seul, suivant l'usage, et en moins d'une demi-heure, il avait composé une antiphone à quatre voix. Mozart père se hâta de revenir à Milan pour que son fils pût travailler à l'opéra dont il s'était chargé. Il se faisait tard. Ils n'arrivèrent que vers la fin du mois d'octobre 1770. Sans la promesse qu'il avait faite, Mozart eût pu obtenir ce qui est regardé en Italie comme le premier honneur pour un musicien, l'engagement de composer un opéra seria pour le théâtre de Rome. Ce fut le 26 décembre qu'on donna pour la première fois à Milan le Mithridate, composé par Wolfgang, âgé alors de 14 ans. Cet opéra eut plus de 20 représentations de suite. On peut juger du succès par cette circonstance. l'entrepreneur fit aussitôt avec lui un accord par écrit pour le charger de la composition du premier opéra pour l'année 1773. Mozart quitta Milan, qui retentissait de sa gloire, pour aller passer avec son père les derniers jours du carnaval à Venise. À Vérone, qu'il ne fit que traverser, on lui présenta un diplôme de membre de la Société philharmonique de cette ville. Partout où il allait en Italie, on le recevait de la manière la plus distinguée. On ne l'appelait plus que « il cavaliere filarmonico ». Lorsque, au mois de mars 1771, Mozart revint avec son père à Salzbourg, il y trouva une lettre du comte Firmian de Milan qui le chargeait, au nom de l'impératrice Marie-Thérèse, de composer une cantate théâtrale pour le mariage de l'archiduc Ferdinand. L'impératrice avait choisi le célèbre Haas comme le plus ancien des maîtres de chapelle pour composer l'opéra et elle voulut que le plus jeune compositeur fût chargé de la cantate, dont le sujet était Ascanio in Alba. Il promit d'entreprendre ce travail et partit au mois d'août pour Milan, où, pendant les solennités du mariage, on exécuta alternativement l'opéra et la sérénade. En 1772, il composa pour l'élection du nouvel archevêque de Salzbourg la cantate intitulée « Le songe de Scipion ». Il passa l'hiver de l'année suivante à Milan, où il composa « Lucio Silla », opéra seria, qui eut 26 représentations de suite. Au printemps de l'année 1773, Mozart était de retour à Salzbourg. Quelques voyages qu'il fit avec son père cette année et la suivante, à Vienne et à Munich, lui donnèrent occasion de faire différentes compositions excellentes, telles qu'un opéra buffa intitulé La Finta Giardiniera, deux grands messes pour la chapelle de l'électeur de Bavière, etc. En 1775, l'archiduc Maximilien s'arrêta quelque temps à Salzbourg et ce fut à cette occasion que Mozart composa la cantate intitulée Il Re Pastore. La partie la plus extraordinaire de la vie de Mozart, c'est son enfance. Le détail peut en être agréable au philosophe et à l'artiste. Nous serons plus succincts sur le reste de sa trop courte carrière. Chapitre 3. À 19 ans, Mozart pouvait croire avoir atteint le plus haut degré de son art, puisque tout le monde le lui répétait de Londres jusqu'à Naples. Sous le rapport de la fortune et d'un établissement, il était le maître de choisir entre toutes les capitales de l'Europe. Partout, l'expérience lui apprenait qu'il pouvait compter sur l'admiration générale. Son père jugea que Paris était la ville qui lui convenait le plus, et au mois de septembre 1777, il partit pour cette capitale, où sa mère seule l'accompagna. Il eût été sans contredit très avantageux pour lui de s'y fixer, mais d'abord la musique française d'alors n'était pas de son goût. L'état de la musique vocale ne lui eut guère permis de travailler dans le genre instrumental, et ensuite, l'année suivante, il eut le malheur de perdre sa mère. Dès lors, le séjour de Paris lui devint insupportable. Après avoir composé une symphonie pour le concert spirituel et quelques autres morceaux, il s'empressa de retourner auprès de son père au commencement de 1779. Au mois de novembre de l'année suivante, il se rendit à Vienne, où son souverain, l'archevêque de Salzbourg, l'avait appelé. Il était alors âgé de 24 ans. Le séjour de Vienne lui convint, et encore plus, à ce qu'il paraît, la beauté des Viennoises. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il s'y fixa et que rien n'a jamais pu l'en détacher. Les passions étant entrées dans cette âme sensible et qui possédait à un si haut degré le mécanisme de son art, il devint bientôt le compositeur favori de son siècle et donna le premier exemple d'un enfant célèbre devenu un grand homme. Mozart composa la musique de l'opéra d'Idoménée sous les auspices les plus favorables. L'électeur de Bavière, qui l'avait toujours comblé de grâce et de prévenance, lui avait demandé cet opéra pour son théâtre de Munich, dont l'orchestre était l'un des mieux composés de l'Allemagne. Mozart se trouvait alors dans toute la fleur de son génie. Il avait 25 ans, était éperdument amoureux de mademoiselle Constance Weber, virtuose célèbre, qu'il épousa depuis. La famille de sa maîtresse, considérant qu'il n'avait point d'emploi fixe, qu'il voyageait toujours, que ses mœurs n'avaient été jusque-là rien moins qu'exemplaires, s'opposait à ce mariage. Il prit à tâche de montrer à cette famille que, quoiqu'il n'eût pas de rang assuré dans la société, il possédait cependant quelques moyens de considération, et il trouva dans ses sentiments pour Constance les motifs des airs passionnés dont il avait besoin pour son ouvrage. L'amour et l'amour-propre du jeune compositeur, exaltés au plus haut degré, lui firent produire un opéra qu'il a toujours regardé comme ce qu'il avait fait de mieux, et dont il a même souvent emprunté des idées pour ses compositions suivantes. Il serait trop long et surtout trop difficile de faire une analyse particulière de chacun des ouvrages de Mozart. Les amateurs doivent les connaître tous. La plupart de ses opéras furent composés à Vienne et y eurent le plus grand succès. Mais aucun ne fit plus de plaisir que la Flûte enchantée, qui, en moins d'un an, eut 100 représentations. Comme Raphaël, Mozart embrassa son art dans toute son étendue. Raphaël ne paraît avoir ignoré qu'une chose, la manière de peindre dans un plafond des figures en raccourci. Il feint toujours que la toile du tableau est attachée à la voûte ou supportée par des figures allégoriques. Pour Mozart, je ne vois pas de genre dans lequel il n'ait triomphé. Opéra, symphonie, chanson, air de danse, il a été grand partout. Le baron de Von Swieten, l'ami de Haydn, allait jusqu'à dire que si Mozart eût vécu, il aurait enlevé à Haydn le sceptre de la musique instrumentale. Dans l'opéra Buffa, la gaieté lui a manqué et en cela il est inférieur au Galuppi, au Guglielmi, au Sarti. Les qualités physiques qui frappent dans sa musique, indépendamment du génie, c'est une manière neuve d'employer l'orchestre et surtout les instruments à vent. Il tire un parti étonnant de la flûte, instrument dont Cimarosa s'est rarement servi. Il transporte dans l'accompagnement toutes les beautés des plus riches symphonies. On a reproché à Mozart de ne prendre d'intérêt qu'à sa musique et de ne connaître que ses propres ouvrages. C'est bien là le reproche de la petite vanité blessée. Mozart, occupé toute sa vie à écrire ses idées, n'a pas eu, il est vrai, le temps de lire toutes celles des autres. Du reste, il a prouvé avec franchise tout ce qu'il rencontrait de bon, la plus simple chanson, pourvu qu'il y eût de l'originalité. Mais moins politique que les grands artistes d'Italie, il était inexorable pour la médiocrité. Il estimait principalement Porpora, Durante, Léo, Alessandro Scarlatti. Mais il mettait Handel au-dessus de tous. Il savait par cœur les ouvrages principaux de ce grand maître. « De nous tous, disait-il, Handel connaît le mieux ce qui est d'un grand effet. Lorsqu'il le veut, il va et frappe comme la foudre. » Il disait de Jomelli, « Cet artiste a certaines parties où il brille et où il brillera toujours. » Seulement, il n'aurait pas dû en sortir et vouloir faire de la musique d'église dans l'ancien style. Il n'estimait pas Vincenzo Martini, dont la Cosa Rara avait alors beaucoup de succès. « Il y a là de fort jolies choses, disait-il, mais dans 20 ans d'ici, personne n'y fera attention. » Il nous reste de lui 9 opéras, écrits sur des paroles italiennes. La Finta Simplice, opéra buffa, son début dans le genre dramatique, Mitridate, opéra seria, Lucio Silla, idem, La Giardiniera, opéra buffa, Idomeneo, opéra seria, Les noces de Figaro et Don Giovanni, composé en 1787, Così fan tutte, opéra buffa, La clémence de Titus, opéra de métastase, représenté en 1792. Il n'a fait que 3 opéras allemands, L'enlèvement au sérail, Le directeur de spectacle et La flûte enchantée, en 1792. Il a laissé 41 symphonies et des pièces instrumentales de tout genre. Comme exécutant, Mozart a été l'un des premiers pianistes de l'Europe. Il jouait avec une vitesse extraordinaire. On admirait surtout celle de sa main gauche. Dès 1785, le célèbre Joseph Haydn avait dit au père de Mozart, qui se trouvait alors à Vienne, « Je vous déclare devant Dieu et en honnête homme que je regarde votre fils comme le plus grand compositeur dont j'ai jamais entendu parler. » Voilà ce que fut Mozart comme musicien. Celui qui connaît la nature humaine ne sera pas étonné qu'un homme qui, sous le rapport du talent, était l'objet de l'admiration générale, n'ait pas été aussi grand dans les autres situations de la vie. Mozart ne se distinguait ni par une figure prévenante, ni par un corps bien fait, quoique son père et sa mère eussent été cités à cause de leur beauté. Cabanis nous dit « Il paraît que la sensibilité se comporte à la manière d'un fluide, dont la quantité totale est déterminée et qui, toutes les fois qu'il se jette en plus grande abondance dans un de ses canaux, diminue proportionnellement dans les autres. » Mozart ne prit point avec l'âge l'accroissement ordinaire. Il eut toute sa vie une santé faible. Il était maigre, pâle, et quoique la forme de son visage fût extraordinaire, sa physionomie n'avait rien de frappant que son extrême mobilité. L'air de son visage changeait à chaque instant, mais n'indiquait autre chose que la peine ou le plaisir qu'il éprouvait dans le moment. On remarquait chez lui une manie qui ordinairement est un signe de stupidité. Son corps était dans un mouvement perpétuel. Il jouait sans cesse avec les mains ou du pied frappait la terre. Du reste, rien d'extraordinaire dans ses habitudes, sinon son amour passionné pour le billard. Il en avait un chez lui, sur lequel il lui arrivait presque tous les jours de jouer seul quand il n'avait plus de partenaire. Les mains de Mozart avaient une direction tellement décidée pour le clavecin qu'il était peu adroit pour toute autre chose. À table, il ne coupait jamais ses aliments, ou s'il entreprenait cette opération, il ne s'en tirait qu'avec beaucoup de peine et de maladresse. Il priait ordinairement sa femme de lui rendre ce service. Ce même homme qui, comme artiste, avait atteint le plus haut degré de développement dès l'âge le plus tendre, est toujours demeuré enfant sous tous les autres rapports de la vie. Jamais il n'a su se gouverner lui-même. L'ordre dans les affaires domestiques, l'usage convenable de l'argent, la tempérance et le choix raisonnable des jouissances ne furent jamais des vertus à son usage. Le plaisir du moment l'emportait toujours. Son esprit, constamment absorbé dans une foule d'idées qui le rendait incapable de toute réflexion sur ce que nous appelons les choses sérieuses, fit que pendant toute sa vie, il eut besoin d'un tuteur qui prit soin de ses affaires temporelles. Son père connaissait bien ce faible. Ce fut ce qui l'engagea, en 1777, à le faire suivre à Paris par sa femme, son emploi à Salzbourg ne lui permettant point alors de s'éloigner. Mais ce même homme, toujours distrait, toujours jouant et s'amusant, paraissait devenir un être d'un rang supérieur dès qu'il se plaçait devant un piano. Son âme s'élevait alors, et toute son attention pouvait se diriger vers le seul objet pour lequel il fut né, l'harmonie des sons. L'orchestre le plus nombreux ne l'empêchait point d'observer pendant l'exécution le moindre son faux, et il indiquait sur le champ, avec la précision la plus surprenante, sur quel instrument on avait fait la faute et quel son il eût fallu en tirer. Lors du voyage de Mozart à Berlin, il n'y arriva que le soir très tard. À peine fut-il descendu de sa voiture qu'il demanda au garçon de l'auberge s'il y avait opéra. « Oui, l'enlèvement au sérail. Cela est charmant. » Et déjà il était en route pour le spectacle. Il se mit à l'entrée du parterre pour écouter sans être reconnu. Mais tantôt il était si satisfait de la bonne exécution de certains morceaux, tantôt si mécontent de la manière dont on jouait quelques autres, ou du mouvement dans lequel on les exécutait, ou des broderies que faisaient les acteurs, que tout en témoignant sa satisfaction et son déplaisir, il se trouva contre la barre de l'orchestre. Le directeur s'était permis de faire des changements à un des airs. Lorsqu'on y fut arrivé, Mozart, ne pouvant plus se contenir, cria presque tout haut à l'orchestre la manière dont il fallait jouer. On se retourna pour voir l'homme en redingote de voyage qui faisait ce bruit. Quelques personnes reconnurent Mozart, et dans un instant les musiciens et les acteurs surent qu'il était parmi les spectateurs. Quelques-uns de ceux-ci, entre autres une très bonne cantatrice, furent tellement frappés de cette nouvelle qu'ils refusèrent de reparaître sur le théâtre. Le directeur fit part à Mozart de l'embarras où ce refus le mettait. Celui-ci fut à l'instant dans les coulisses et réussit, par les éloges qu'il donna aux acteurs, à leur faire continuer l'opéra. La musique fut l'occupation de sa vie, et en même temps sa plus douce récréation. Jamais, même dans sa plus tendre enfance, on n'eut besoin de l'engager à se mettre au piano. Il fallait au contraire le surveiller pour qu'il ne s'y oubliât point et qu'il ne nuisît pas à sa santé. Dès sa jeunesse, il eut une prédilection marquée pour faire de la musique pendant la nuit. Quand, le soir à 9 heures, il se mettait au clavecin, il ne le quittait pas avant minuit, et même alors il fallait lui faire violence, car il aurait continué toute la nuit à préluder et à jouer des fantaisies. Dans la vie habituelle, c'était l'homme le plus doux, mais le moindre bruit pendant la musique lui causait l'indignation la plus vive. Il était bien au-dessus de cette modestie affectée ou mal placée qui porte la plupart des virtuoses à ne se faire entendre qu'après en avoir été priés à différentes reprises. Souvent, des grands seigneurs de Vienne lui reprochèrent de jouer avec le même intérêt devant tous ceux qui prenaient plaisir à l'entendre. Chapitre 4. Un amateur d'une ville où Mozart passait dans un de ses voyages réunit chez lui une nombreuse société pour procurer à ses amis le plaisir d'entendre ce musicien célèbre qui lui avait promis de s'y trouver. Mozart arrive, ne dit pas grand-chose et se met au piano. Croyant n'être entouré que de connaisseurs, il commença dans un mouvement très lent à exécuter de la musique d'une harmonie suave mais extrêmement simple, voulant ainsi préparer ses auditeurs aux sentiments qu'il avait dessein d'exprimer. La société trouva cela fort commun. Bientôt son jeu devint plus vif, on le trouva assez joli. Il devint sévère et solennel, d'une harmonie frappante, élevée et en même temps plus difficile. Quelques dames commencèrent à le trouver décidément ennuyeux et à se communiquer quelques mots de critique. Bientôt, la moitié du salon se mit à causer. Le maître de la maison était sur les épines, et enfin Mozart s'aperçut de l'impression que sa musique faisait sur l'auditoire. Il n'abandonna point l'idée principale qu'il avait commencé à exprimer, mais il la développa avec toute l'impétuosité dont il était capable. On n'y fit pas encore attention. Il se mit alors à apostropher son auditoire d'une manière assez brusque, mais toujours en continuant de jouer, et comme heureusement ce fut en italien, presque personne ne le comprit. Cependant, on commençait à être plus tranquille. Quand sa colère fut un peu apaisée, il ne put s'empêcher de rire lui-même de son impétuosité. Il donna à ses idées une tournure plus vulgaire et finit par jouer un air très connu dont il fit 10 à 12 variations charmantes. Tout le salon était ravi et très peu de ceux qui s'y trouvaient s'étaient aperçus de la scène qui venait de se passer. Mozart, cependant, sortit bientôt, en invitant le maître de la maison qui l'accompagnait et quelques connaisseurs, à venir le voir le même soir dans son auberge. Il les y retint à souper, et à peine lui eurent-ils témoigné quelques désirs de l'entendre, qu'il se mit à jouer des fantaisies sur le clavecin, où, au grand étonnement de ses auditeurs, il s'oublia jusqu'après minuit. Un vieil accordeur de clavecin était venu mettre quelques cordes à son forte piano de voyage. « Bon vieillard, lui dit Mozart, combien vous faut-il? Je pars demain. » Ce pauvre homme, le regardant pour ainsi dire comme un dieu, lui répondit, déconcerté, anéanti et balbutiant, « Majesté impériale, monsieur le maître de chapelle de sa majesté impériale, je ne puis. Il est vrai que j'ai été plusieurs fois chez vous. Eh bien, vous me donnerez un écu. »« Un écu ? » répondit Mozart. « Allons donc, un brave homme comme vous ne doit pas se déranger pour un écu. » Et il lui donna quelques ducats. Le bonhomme, en se retirant, répétait encore, avec de grandes révérences, « Ah, majesté impériale !» Idoménée et Don Juan étaient ceux de ses opéras qu'il estimait le plus. Il n'aimait pas à parler de ses ouvrages, ou s'il en parlait, ce n'était jamais qu'en quelques mots. Au sujet de Don Juan, il dit un jour « Cet opéra n'a pas été composé pour le public de Vienne. Il convenait mieux à celui de Prague, mais au fond, je ne l'ai fait que pour moi et mes amis. » Le temps qu'il donnait le plus volontiers au travail était le matin, depuis 6 ou 7 heures jusqu'à 10. Alors, il sortait du lit. Le reste de la journée, il ne composait plus, à moins qu'il n'eût à terminer quelques morceaux pressés. Il fut toujours très inégal dans sa manière de travailler. Quand il était saisi d'une idée, on ne pouvait l'arracher à son ouvrage. Si on l'ôtait du piano, il composait au milieu de ses amis et passait ainsi des nuits entières la plume à la main. Dans d'autres temps, son âme était tellement rebelle à l'application qu'il ne pouvait achever une pièce qu'au moment même où l'on devait l'exécuter. Il lui arriva même un jour de renvoyer tellement au dernier moment un morceau qui lui avait été demandé pour un concert de la cour, qu'il n'eut pas le temps d'écrire la partie qu'il devait exécuter. L'empereur Joseph, qui furetait partout, jetant par hasard les yeux sur le papier de musique que Mozart avait l'air de suivre, fut étonné de n'y voir que des lignes sans notes, et lui dit « Où est donc votre partie ?»« Là, » répondit Mozart, en portant la main au front. Le même accident fut sur le point de lui arriver au sujet de l'ouverture de Don Juan. On convient assez généralement que c'est la meilleure de ses ouvertures. Cependant, il n'y travailla que dans la nuit qui précéda la première représentation et lorsque la répétition générale avait déjà eu lieu. Le soir, vers les 11 heures, et en se retirant, il pria sa femme de lui faire du punch et de rester avec lui pour le tenir éveillé. Elle y consentit et se mit à lui raconter des contes de fées, des aventures bizarres, qui le firent pleurer à force de rire. Cependant, le punch l'excita au sommeil, de sorte qu'il ne travaillait que pendant que sa femme racontait, et il fermait les yeux dès qu'elle s'arrêtait. Ses efforts pour se tenir éveillé, cette alternative continuelle de veille et de sommeil, le fatiguèrent tellement que sa femme l'engagea à prendre quelque repos, lui donnant sa parole de le réveiller une heure après. Il s'endormit si profondément qu'elle le laissa reposer 2 heures. Elle l'éveilla vers les 5 heures du matin. Il avait donné rendez-vous au copiste à 7 heures, et à leur arrivée, l'ouverture était finie. Ils eurent à peine assez de temps pour faire les copies nécessaires à l'orchestre, et les musiciens furent obligés de jouer sans avoir fait de répétition. Quelques personnes prétendent reconnaître dans cette ouverture les passages où Mozart doit avoir été surpris par le sommeil, et ceux où il s'est réveillé en sursaut. Don Juan ne fut pas très bien accueilli à Vienne dans la nouveauté. Peu de temps après la première représentation, on en parlait dans une assemblée nombreuse où se trouvaient la plupart des connaisseurs de la capitale, et entre autres Haydn. Mozart n'y était point. Tout le monde s'accordait à dire que c'était un ouvrage très estimable, d'une imagination brillante et d'un génie riche, mais tout le monde aussi y trouvait à reprendre. Tous avaient parlé, à l'exception du modeste Haydn. On le pria de dire son opinion. « Je ne suis pas en état de juger de cette dispute, » dit-il avec sa retenue accoutumée. « Tout ce que je sais, c'est que Mozart est le plus grand compositeur qui existe dans ce moment. » On parla d'autre chose. Mozart, de son côté, avait beaucoup d'estime pour Haydn. Il lui a dédié un recueil de quatuors qu'on peut mettre parmi ce qu'il y a de plus beau en ce genre. Un compositeur viennois, qui n'était pas sans quelque mérite, mais qui était bien loin de valoir Haydn, se faisait un malin plaisir de rechercher dans les compositions de ce dernier toutes les petites incorrections qui avaient pu s'y glisser. Il venait souvent trouver Mozart pour lui montrer avec joie des symphonies ou des quatuors de Haydn qu'il avait mis en partition, et où il avait découvert par ce moyen quelques négligences de style. Mozart tâchait toujours de changer le sujet de la conversation. Enfin, n'y pouvant plus tenir, « Monsieur, lui dit-il une fois d'un ton un peu brusque, si l'on nous fondait tous les deux ensemble, on ne trouverait pas encore de quoi faire un Haydn. » Un peintre voulant flatter Cimarosa lui dit un jour qu'il le regardait comme supérieur à Mozart. « Moi, monsieur, répliqua-t-il vivement, que diriez-vous à un homme qui viendrait vous assurer que vous êtes supérieur à Raphaël ?» Chapitre 5. Mozart jugeait ses propres ouvrages avec impartialité et souvent avec une sévérité qu'il n'aurait pas soufferte aisément dans un autre. L'empereur Joseph II aimait Mozart et l'avait fait son maître de chapelle, mais ce prince avait la prétention d'être un dilettante. Son voyage en Italie lui avait donné l'engouement de la musique italienne. Et quelques Italiens qu'il avait à sa cour ne manquaient pas d'entretenir cette prévention qui, au reste, me semble assez fondée. Il parlait avec plus de jalousie que de justice des premiers essais de Mozart, et l'empereur, ne jugeant guère par lui-même, fut facilement entraîné par les décisions de ses amateurs. Un jour qu'il venait d'entendre la répétition d'un opéra comique, l'enlèvement au sérail, qu'il avait demandé lui-même à Mozart, il dit au compositeur « Mon cher Mozart, cela est trop beau pour nos oreilles. « Il y a beaucoup trop de notes là-dedans. »« J'en demande pardon à votre majesté, » lui répondit Mozart très sèchement. « Il y a précisément autant de notes qu'il en faut. » Joseph ne dit rien et parut un peu embarrassé de la réponse. Il en fit les plus grands éloges. Mozart fut ensuite moins content lui-même de son ouvrage. Il y fit beaucoup de corrections et de retranchements. Et depuis, en exécutant sur le piano un des airs qui avait été le plus applaudi, « Cela est bon dans la chambre, dit-il, mais pour le théâtre il y a trop de verbiage. Dans le temps où je composais cet opéra, je me complaisais dans ce que je faisais et n'y trouvais rien de trop long. » Mozart n'était nullement intéressé. La bienfaisance, au contraire, faisait son caractère. Il donnait souvent sans choix et dépensait son argent plus souvent encore sans raison. Dans un voyage qu'il fit à Berlin, le roi Frédéric Guillaume II lui proposa 3 000 écus d'appointement, 11 000 francs, s'il voulait rester à sa cour et se charger de la direction de son orchestre. Mozart répondit seulement « Dois-je quitter mon bon empereur ?» Cependant, à l'époque, Mozart n'avait point encore d'appointement fixe à Vienne. Un de ses amis lui reprochant, dans la suite, de n'avoir pas accepté les propositions du roi de Prusse, « J'aime à vivre à Vienne, » répliqua Mozart. « L'empereur me chérit, je me soucie peu de l'argent. » Des tracasseries qu'on lui avait suscitées à la cour le portèrent cependant à demander sa démission à Joseph. Mais un mot de ce prince, qui aimait ce compositeur et surtout sa musique, le fit sur-le-champ changer de résolution. Il n'eut pas l'habileté de profiter de ce moment favorable pour demander un traitement fixe, mais l'empereur eut enfin de lui-même l'idée de régler son sort. Malheureusement, il consulta sur ce qu'il était convenable de faire un homme qui n'était pas des amis de Mozart, et qui proposa 800 florins, un peu moins de 2200 francs. Jamais Mozart n'eut un traitement plus considérable. Il le touchait comme compositeur de la chambre, mais il ne fit jamais rien en cette qualité. On lui demanda une fois, en vertu d'un de ses ordres généraux du gouvernement, fréquent à Vienne, l'état des traitements qu'il recevait de la cour. Il écrivit dans un billet cacheté « Trop pour ce que j'ai fait, trop peu pour ce que j'aurais pu faire. » Les marchands de musique, les directeurs de théâtre et autres gens à argent abusaient tous les jours de son désintéressement connu. C'est ainsi que la plupart de ses compositions pour le piano ne lui ont rien rapporté. Il les écrivait par complaisance pour des gens de sa société, qui lui témoignaient le désir de posséder quelque chose de sa propre main pour leur usage particulier. Dans ce cas, il était obligé de se conformer au degré de force auquel ces personnes étaient parvenues. Et c'est ce qui explique comment, dans le nombre de ses compositions pour le clavecin, il s'en trouve beaucoup qui paraissent peu dignes de lui. Artaria, marchand de musique à Vienne, et d'autres de ses confrères, savaient se procurer des copies de ses pièces et les publier sans demander l'agrément de l'auteur, et surtout sans lui proposer d'honoraires. Chapitre 6. Un jour, un directeur de spectacle, qui était fort mal dans ses affaires et presque au désespoir, vint trouver Mozart et lui exposa sa situation, en ajoutant « Vous êtes le seul homme au monde qui puisse me tirer d'embarras. »« Moi, réplique Mozart, comment cela ?»« En me composant un opéra, tout à fait dans le goût du public qui fréquente mon théâtre. Vous pourrez également travailler jusqu'à un certain point pour les connaisseurs et pour votre gloire. » Mais ayez surtout égard aux classes du peuple qui ne se connaissent pas à la belle musique. J'aurai soin que vous ayez bientôt le poème, que les décorations soient belles, en un mot, que tout soit comme on le veut aujourd'hui. » Mozart, touché de la prière de ce pauvre diable, lui promit de se charger de son affaire. « Combien demandez-vous pour vos honoraires ? » répliqua le directeur du théâtre. « Mais vous n'avez rien, dit Mozart. Écoutez cependant. Voici comment nous arrangerons la chose pour que vous puissiez sortir d'embarras et pour qu'en même temps je ne perde pas tout à fait le fruit de mon travail. Je ne donnerai ma partition qu'à vous seul. Vous m'en paierez ce que vous voudrez. Mais c'est sous la condition expresse que vous n'en laisserez pas prendre de copie. Si l'opéra fait du bruit, je le vendrai à d'autres directions. » Le directeur, ravi de la générosité de Mozart, s'épuise en promesses. Celui-ci se hâte de composer sa musique et l'a fait exactement dans le genre qui lui était indiqué. On donne l'opéra, la salle est toujours pleine. On en parle dans toute l'Allemagne, et quelques semaines après, on le joue sur 5 ou 6 théâtres différents, sans qu'aucun d'eux eût reçu de copie du directeur dans l'embarras. Thank you. D'autres fois encore, il ne trouva que des ingrats dans ceux auxquels il avait rendu des services, mais rien ne put le guérir de son obligeance pour les malheureux. Toutes les fois que des virtuoses peu fortunées passaient par Vienne et que, n'y connaissant personne, ils s'adressaient à lui, il leur offrait d'abord sa table et son logement, leur faisait faire la connaissance de ceux qui pouvaient leur devenir utiles, et rarement les laissait partir sans composer pour eux des concertos, dont ils ne gardaient pas même de copie, afin qu'étant les seuls à les jouer, ils pussent se produire avec plus d'avantages. Mozart avait souvent le dimanche des concerts chez lui. Un comte polonais, qu'on y mena un jour, fut enchanté, ainsi que tous les assistants, d'un morceau de musique pour 5 instruments qu'on exécutait pour la première fois. Il témoigna à Mozart combien ce morceau lui avait fait de plaisir, et le pria de composer pour lui un trio de flûtes quand il se trouverait de loisir. Mozart le lui promit, sous cette condition qu'il ne serait nullement pressé. Le comte, en rentrant chez lui, envoya au compositeur 100 demi-souverains d'or, un peu plus de 2000 francs, avec un billet très poli, dans lequel il le remerciait du plaisir dont il venait de jouir. Mozart envoya au comte la partition originale du morceau de musique à 5 instruments qui avaient paru lui plaire. Ce comte partit. Une année après, il revint voir Mozart et lui demanda des nouvelles de son trio. « Monsieur, répondit le compositeur, je ne me suis pas encore senti disposé à composer quelque chose qui fût digne de vous. » « Par conséquent, répliqua le comte, vous ne vous sentirez pas non plus disposé à me rembourser les 100 demi-souverains d'or que je vous ai payés d'avance pour ce morceau de musique. » Mozart, indigné, lui rendit sur le champ ses souverains. Mais le comte ne parla pas de la partition originale du morceau à 5 instruments, et bientôt après, elle parut chez Artaria comme quatuor de clavecin avec accompagnement de violon, d'alto et de violoncelle. On a remarqué que Mozart était très prompt à prendre des habitudes nouvelles. La santé de sa femme, qu'il aima toujours avec passion, était fort chancelante. Dans une longue maladie qu'elle fit, il courait au-devant de ceux qui venaient la voir, en mettant un doigt sur la bouche et leur faisant signe de ne pas faire de bruit. Sa femme guérit, mais pendant longtemps il aborda les gens qui entraient chez lui en mettant le doigt sur la bouche et en ne leur parlant lui-même qu'à voix basse. Pendant cette maladie, il allait quelquefois, de grand matin, se promener seul à cheval. Mais il avait toujours soin, avant de partir, de laisser auprès de sa femme un papier en forme d'ordonnance du médecin. Voici une de ses ordonnances. « Bonjour, ma bonne amie. Je souhaite que tu aies bien dormi, que rien ne t'ait dérangé. Prends garde de ne point prendre froid et de ne pas te faire mal en te baissant. Ne te fâche pas contre tes domestiques. Évite toute espèce de chagrin jusqu'à mon retour. Aie bien soin de toi. Je reviendrai à 9 heures. » Constance Weber fut une excellente compagne pour Mozart, et elle lui donna plusieurs fois des conseils utiles. Il eut d'elle 2 enfants qu'il aima tendrement. Mozart jouissait d'un revenu considérable, mais son amour effréné pour le plaisir et le désordre de ses affaires domestiques firent qu'il ne laissa à sa famille que la gloire de son nom et l'attention du public de Vienne. Après la mort de ce grand compositeur, les Viennois cherchèrent à témoigner leur reconnaissance à ses enfants pour les plaisirs qu'il leur avait si souvent procurés. Dans les dernières années de la vie de Mozart, sa santé, qui avait toujours été délicate, s'affaiblissait rapidement. Il était timide à l'égard des malheurs futurs, comme tous les gens à imagination, et l'idée qu'il n'avait plus longtemps à vivre le tourmentait souvent. Alors il travaillait tant, avec une telle rapidité et une si grande force d'attention, qu'il oubliait quelquefois tout ce qui n'était pas son art. Souvent, au milieu de son enthousiasme, ses forces l'abandonnaient, il tombait en faiblesse et l'on était obligé de le porter sur son lit. Tout le monde voyait que cette rage de travail ruinait sa santé. Sa femme et ses amis faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour le distraire. Par complaisance pour eux, il les accompagnait dans les promenades et aux visites où on le menait, mais son esprit n'y était pas. Il ne sortait de temps en temps de cette mélancolie habituelle et silencieuse que par le pressentiment de sa fin prochaine, idée qui lui causait toujours une terreur nouvelle. On reconnaît le genre de folie du Tasse et celle qui rendit Rousseau si heureux dans le vallon des Charmettes, en le portant, par la crainte d'une mort prochaine, à la seule bonne philosophie, celle de jouir du moment présent et d'oublier les chagrins. Peut-être, sans cette exaltation de la sensibilité nerveuse qui va jusqu'à la folie, n'y a-t-il pas de génie supérieur dans les arts qui exigent de la tendresse ? La femme de Mozart, inquiète de cette manière d'être singulière, avait l'attention de faire venir chez son mari les personnes qu'il aimait à voir, et qui faisaient semblant de le surprendre au moment où, après plusieurs heures de travail, il aurait dû naturellement songer au repos. Ces visites lui faisaient plaisir, mais il ne quittait point la plume. On causait, on cherchait à l'engager dans la conversation, il n'y prenait aucune part. On lui adressait la parole, il répondait quelques mots sans suite, et continuait d'écrire. Cette extrême application, au reste, accompagne quelquefois le génie, mais n'en est pas du tout la preuve. Voyez Thomas. Qui est-ce qui peut lire son emphatique collection de superlatifs ? Et cependant, il était tellement absorbé par ses méditations sur les moyens d'être éloquent, qu'il lui est arrivé à Montmorency, lorsque son laquais lui a mené le cheval sur lequel il avait coutume de faire de l'exercice, d'offrir à ce cheval une prise de tabac. Raphaël Manx aussi a été dans ce siècle un modèle de préoccupation, et ce n'est cependant qu'un peintre de troisième ordre. Tandis que le guide, le plus joueur des hommes, et qui faisait vers la fin de sa vie jusqu'à 3 tableaux par jour pour payer les dettes de la nuit, a laissé des ouvrages dont le plus faible donne plus de plaisir que les meilleurs des Manx ou des Karl Marat, gens très appliqués. Une femme me disait un jour « Monsieur Untel me jure que je régnerai à jamais sur son âme. Il proteste sans cesse que je serai la maîtresse unique de cette âme. Mon Dieu, je le crois, mais à quoi bon si cette âme ne me plaît pas ?» À quoi bon l'application d'un homme sans génie ? Mozart a été peut-être, dans le XVIIIe siècle, l'exemple le plus frappant de la réunion des deux choses. Benda, l'auteur d'Ariane dans l'île de Naxos, a aussi de bons traits de préoccupation. Chapitre 7. Ce fut dans cet état qu'il composa la flûte enchantée, la clémence de Titus, son requiem, et d'autres morceaux moins connus. C'est pendant qu'il faisait la musique du premier de ses opéras qu'il commença à avoir, au milieu de son travail, ces moments d'évanouissement dont nous avons parlé. Il aimait beaucoup la flûte enchantée, quoiqu'il ne fût pas très content de quelques morceaux que le public avait pris en affection et qu'il ne cessait d'applaudir. Cet opéra eut un grand nombre de représentations, mais l'état de faiblesse dans lequel Mozart se trouvait ne lui permit de diriger l'orchestre que pendant les 9 ou 10 premières. Quand il était hors d'état d'aller au théâtre, il plaçait sa montre à côté de lui et semblait suivre l'orchestre dans sa pensée. « Voilà le premier acte terminé, » disait-il. « Maintenant on chante tel ou tel air, etc. » Puis il était de nouveau saisi de l'idée que bientôt il serait obligé de quitter tout cela. Un événement assez singulier vint accélérer l'effet de cette funeste disposition. Je prie qu'on me permette de rapporter cet événement avec détail, parce qu'on lui doit le fameux requiem, qui passe avec raison pour un des chefs-d'œuvre de Mozart. Un jour qu'il était plongé dans une profonde rêverie, il entendit un carrosse s'arrêter à sa porte. On lui annonce un inconnu qui demande à lui parler. On le fait entrer. Il voit un homme d'un certain âge, fort bien mis, les manières les plus nobles et même quelque chose d'imposant. « Je suis chargé, monsieur, pour un homme très considérable, de venir vous trouver. »« Quel est cet homme ? » interrompit Mozart. « Il ne veut pas être connu. »« À la bonne heure, et que désire-t-il ? » ? « Il vient de perdre une personne qui lui était bien chère, et dont la mémoire lui sera éternellement précieuse. »« Il veut célébrer tous les ans sa mort par un service solennel, et il vous demande de composer un requiem pour ce service. » Mozart se sentit vivement frappé de ce discours, du ton grave dont il était prononcé, de l'air mystérieux qui semblait répandu sur toute cette aventure. Il promit de faire le requiem. L'inconnu continue. « Mettez à cet ouvrage tout votre génie. Vous travaillez pour un connaisseur en musique. Tant mieux. Combien de temps demandez-vous ? 4 semaines. »« Eh bien, je reviendrai dans 4 semaines. Quelle prix mettez-vous à votre travail ? 100 ducats. L'inconnu les compte sur la table et disparaît. Mozart reste plongé quelques moments dans de profondes réflexions, puis tout à coup demande une plume, de l'encre, du papier, et malgré les remontrances de sa femme, il se met à écrire. Cette fougue de travail continua plusieurs jours. Il composa jour et nuit, et avec une ardeur qui sembla augmenter en avançant. Mais son corps, déjà faible, ne put résister à cet enthousiasme. Un matin, il tomba enfin sans connaissance et fut obligé de suspendre son travail. Deux ou trois jours après, sa femme, cherchant à le distraire des sombres pensées qui l'occupaient, il lui répondit brusquement « Cela est certain, c'est pour moi que je fais ce requiem. Il servira à mon service mortuaire. » Rien ne peut le détourner de cette idée. À mesure qu'il travaillait, il sentait ses forces diminuer de jour en jour, et sa partition avançait lentement. Les 4 semaines qu'il avait demandées s'étaient écoulées, il vit un jour entrer chez lui le même inconnu. « Il m'a été impossible, dit Mozart, de tenir ma parole. » « Ne vous gênez pas, dit l'étranger. Quel temps vous faut-il encore ?»« 4 semaines. L'ouvrage m'a inspiré plus d'intérêt que je ne pensais, et je l'ai étendu beaucoup plus que je n'en avais le dessein. » »« En ce cas, il est juste d'augmenter les honoraires. Voici 50 ducats de plus. » « Monsieur, dit Mozart, toujours plus étonné, qui êtes-vous donc ?»« Cela ne fait rien à la chose. Je reviendrai dans 4 semaines. » Mozart appelle sur le champ un de ses domestiques pour faire suivre cet homme extraordinaire et savoir qui il était. Mais le domestique, maladroit, vint rapporter qu'il n'avait pu retrouver sa trace. Le pauvre Mozart se mit dans la tête que cet inconnu n'était pas un être ordinaire, qu'il avait sûrement des relations avec l'autre monde, et qu'il lui était envoyé pour lui annoncer sa fin prochaine. Il ne s'en appliqua qu'avec plus d'ardeur à son requiem, qu'il regardait comme le monument le plus durable de son génie. Pendant ce travail, il tomba plusieurs fois dans des évanouissements alarmants. Enfin, l'ouvrage fut achevé avant les 4 semaines. L'inconnu revint au terme convenu. Mozart n'était plus. Sa carrière a été aussi courte que brillante. Il est mort à peine âgé de 36 ans. Mais dans ce peu d'années, il s'est fait un nom qui ne périra point tant qu'il se trouvera des âmes sensibles.